choisi pour thème de ses causeries tout au long de l'année les paraboles de l'Évangile. Si bien, je m'en excuse pour ceux qui seront là aujourd'hui occasionnellement, la conférence d'aujourd'hui n'est que l'introduction d'une série de conférences. Cependant, je crois qu'elle constitue tout de même, à elle seule, un tout d'une certaine manière, et que vous pourrez tout de même y puiser quelque chose. Donc le sujet que nous devions traiter aujourd'hui, qui constitue donc une sorte d'introduction, c'est le sens des paraboles en général. Le sens des paraboles, d'abord dans la prédication du Christ, le sens immédiat des paraboles dans l'Évangile, et puis je voudrais ensuite vous parler sommairement du sens des paraboles dans la tradition de l'Église. Comment les paraboles ont été transmises par l'Église. Donc tout d'abord, les paraboles et le message du Christ, le sens des paraboles dans la prédication du Christ. Et ici, je crois que nous avons deux questions à nous poser. Tout d'abord, quel est véritablement l'objet des paraboles? Quel est le contenu de l'enseignement qui nous est transmis par les paraboles? Et puis, d'autre part, pourquoi le Seigneur a-t-il choisi ce genre littéraire, cette forme parabolique, pour transmettre de préférence son enseignement? Non pas de façon exclusive, mais tout de même, dans une très large mesure, c'est à travers des paraboles que nous est transmis le message du Christ. Pourquoi cela? Le contenu des paraboles, eh bien, c'est essentiellement le message même de l'Évangile. C'est le message que le Seigneur est venu nous apporter. Ce message du Christ, j'en disais un mot ce matin à propos de l'Évangile, ce n'est pas une doctrine de sagesse. L'Évangile n'est pas une doctrine, un ensemble de théories sur Dieu, sur le comportement moral de l'homme, une doctrine intemporelle, abstraite. Le message que le Christ nous apporte, le message de l'Évangile, c'est avant tout que le royaume de Dieu est parmi nous. Ce royaume, c'est le salut apporté par le Christ, Fils de Dieu. En lui, par lui, une force divine, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit personnel de Dieu, fait irruption dans le monde pour l'arracher à sa condition déchue, pour le créer à nouveau. Bon, tout le message du Christ, c'est l'annonce de cette nouvelle création qui va s'accomplir en lui, par son œuvre, dans l'Esprit Saint. Et ainsi, dans le Christ s'accomplissent toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Cet établissement du royaume va se réaliser, et c'est là le point crucial de l'enseignement du Christ, par sa mort et sa résurrection. Il faut que le Seigneur passe par la mort et ressuscite pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint. Et plus tard, bien sûr, l'Église, les pères de l'Église, réfléchiront sur ce mystère de la croix et nous expliqueront qu'il fallait que le Christ, qui porte en lui la force ressuscitante de Dieu, cette vie par essence qu'est l'Esprit Saint, entre en contact avec notre nature humaine, avec notre humanité, et d'abord dans sa propre humanité sainte, pour lui communiquer cet esprit, pour la vivifier. Saint Grégoire de Nice, par exemple, aimera emprunter à l'Ancien Testament cette image du prophète s'étendant sur l'enfant mort, se contractant en quelque sorte pour épouser ses dimensions, si je puis dire, se rapetissant pour se mettre à sa taille, et lui communiquer par ce contact l'Esprit de Dieu dont il est rempli. C'est cela, au fond, c'est comme cela que s'accomplit notre salut dans le Christ, et c'est cela que le Christ vient nous annoncer. Mais l'entrée de chacun, de chaque homme, dans le royaume de Dieu, dépend de l'accueil qu'il lui fait, de la qualité de son écoute, de sa réponse de foi, qui est inséparablement l'œuvre de la liberté humaine et de la grâce divine offerte à tous. Eh bien, c'est cet enseignement, c'est cela, c'est ce message que nous trouvons à travers les paraboles. Ce n'est pas simplement un enseignement moral, comme une certaine exégèse, surtout d'influence protestante libérale, l'a pensé assez longtemps, depuis un siècle, mais c'est essentiellement ce message de salut que le Seigneur nous transmet à travers les paraboles. Les paraboles sont essentiellement chargées de communiquer la bonne nouvelle du royaume messianique. Chaque parabole nous présente vraiment un aspect du dessein de Dieu. Elle nous annonce que l'heure de l'accomplissement est arrivée. Comme le dit un exégète qui a bien traité des paraboles dans un petit livre qui existe en édition de poche, les paraboles de Jésus de Irénias. En conclusion de tout son livre sur les paraboles, il nous dit ceci, donc cette phrase est de lui: « L'heure de l'accomplissement est arrivée, voilà leur note fondamentale, le fort, il reprend les images principales des paraboles, le fort est désarmé, les troubles du mauvais doivent céder, le médecin vient au chevet des malades, les lépreux sont purifiés, la grosse dette est remise, la brebis perdue rentre au bercail, la porte de la maison paternelle est ouverte, pauvres et mendiants sont invités au festin, un maître d'une bonté insondable donne le plein salaire, une joie immense saisit les cœurs. L'année de grâce que Dieu avait promise est commencée, car est apparu celui dont la gloire cachée flamboie derrière chaque mot et chaque parabole, le Sauveur. » Et en conséquence, parce que chaque parabole nous annonce d'une manière ou d'une autre cet avènement du royaume, cette imminence de la venue du royaume, en conséquence, toutes les paraboles du Seigneur veulent en quelque sorte forcer les auditeurs à prendre position sur sa personne et sur sa mission. Toute parabole aboutit à définir une attitude du fidèle devant l'appel de Dieu. Et c'est par là alors qu'il y a aussi un message moral dans les paraboles, mais d'une morale qui, encore une fois, n'est pas une morale humaine, mais qui définit simplement la transformation intérieure que va opérer dans l'homme cette irruption du royaume de Dieu et la manière dont l'homme doit accueillir ce don de Dieu. C'est là toute l'éthique chrétienne. Mais pourquoi ce message, le Seigneur le formule-t-il de cette manière, au moyen de ce genre littéraire qu'est la parabole? Assurément, c'est un genre littéraire qui était déjà répandu dans le milieu juif, que les rabbins employaient largement, que les prophètes d'Israël avaient déjà utilisé eux aussi. Et par conséquent, le Seigneur se situe dans leur sillage. Mais je crois qu'il y a des raisons plus profondes que de simples raisons de coutume, de tradition, à cet usage que le Christ fait du genre parabolique. On peut dire qu'il y a d'abord ce que j'appellerais une question d'anthropologie. C'est lié à toute une conception de l'homme et du langage. Un langage explicatif, didactique, s'adresse au cerveau de l'homme. S'adresse à l'homme, si je puis dire, dans l'état de dissociation qui est en lui depuis la chute. Cet état où l'intelligence d'une part, la sensibilité de l'autre et encore la volonté d'autre part se trouvent comme dissociés, comme décomposés en quelque sorte. Le langage parabolique, au contraire, comme le langage poétique et le langage gestuel, aussi le langage du geste, auquel il est étroitement apparenté, le langage parabolique s'adresse au cœur, au centre de l'être, à l'intériorité la plus personnelle. Et je pense que c'est là l'une des raisons fondamentales de cette utilisation de la parabole dans l'Évangile. La parabole n'est pas une explication, ne rend pas raison de quelque chose, mais elle s'adresse directement au cœur, à l'intériorité la plus profonde de chacun, et finalement, nous le verrons dans un instant, à sa liberté. Et c'est ce qui nous explique d'ailleurs ce texte assez mystérieux que nous trouvons dans les synoptiques sur la raison d'être des paraboles. Ce sont des paroles de Jésus qui viennent à la suite de la parabole du semeur. Je vous les cite d'après saint Matthieu au chapitre 13. Je pense qu'il est bon d'ailleurs de relire d'abord la parabole du semeur et de voir ensuite cette explication que le Christ nous donne de l'usage des paraboles. Donc il parlait à son auditoire de beaucoup de choses en paraboles. Il disait, voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où ils n'avaient pas beaucoup de terre et aussitôt ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et faute de racines se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, entendent qui a des oreilles. Donc vous voyez ici, évidemment la semence est l'image de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et l'importance de l'accueil. La parole de Dieu va fructifier justement selon l'accueil qui lui est fait. Et la suite du texte va nous expliquer précisément que si le Seigneur emploie ce mode parabolique, c'est pour ne pas forcer l'adhésion, mais mettre sa parole à la portée de chacun, bien sûr, mais d'une manière telle que chacun puisse la comprendre et réagir selon ses dispositions, selon la réaction de sa liberté la plus personnelle. Les disciples s'approchant lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?»« C'est que, répondit-il, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'a pas été donné. Car celui qui a, on lui donnera, et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit la prophétie, s'accomplit pour eux, la prophétie d'Isaïe qui disait « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, c'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles par ce qu'elles entendent. » Ce texte dans lequel le Seigneur semble expliquer pourquoi il parle en parabole est évidemment assez énigmatique et je dirais même au premier abord peut-être un peu scandaleux. Il faut le comprendre bien sûr en tenant compte de certaines particularités du mode d'expression hébraïque. Notamment dans la langue hébraïque, on ne peut pas distinguer entre ce qui est la volonté positive de Dieu et ce qui est permission de Dieu. Et depuis toujours, les exégètes, confrontés aux paraboles et à ces paroles du Christ, ont hésité entre deux interprétations de raison de l'usage des paraboles faites par le Seigneur. D'une part, en effet, les paraboles, au premier abord, semblent faites pour mettre le message à la portée des foules dans un langage simple, imagé, accessible à tous. Mais d'autre part, ce texte semble nous dire que les paraboles sont pour le Christ comme un moyen de voiler le message à ceux du dehors, à ceux qui sont aveuglés. Et on aurait presque l'impression que les paraboles ont pour but de les aveugler, de rendre le message du Christ comme inaccessible à ce peuple, à ces hommes qui, évidemment, sont par ailleurs plus ou moins mal disposés. En fait, ce que ce texte signifie, c'est que ont l'intelligence des paraboles ceux qui ont un cœur ouvert, disponible, croyant. Par contre, ne peuvent avoir l'intelligence des paraboles, parce que justement, c'est un langage qui n'est pas explicatif, qui est un langage qui s'adresse, je dirais, à cette sorte de faculté d'intuition qui est au plus profond du cœur de l'homme, c'est un langage dont ne peuvent avoir l'intelligence ceux dont le cœur se ferme, refuse de croire. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y ait de la part de Dieu, de la part du Seigneur, une volonté d'endurcissement, une initiative d'endurcissement. Là, toute la tradition de l'Église, toute l'interprétation des Pères, sauf certains textes de saint Augustin plus difficiles d'interprétation, toute l'Église a toujours enseigné que l'endurcissement du pécheur, permis par Dieu, mais non pas voulu ni prédéterminé par lui, que l'endurcissement du pécheur est toujours le fait du pécheur lui-même, de sa liberté. Mais cela dit, justement, Dieu connaît à l'avance cette liberté, connaît à l'avance les choix que l'homme fera, sans aucunement les déterminer. Mais dans le fait même que le Seigneur parle en parabole, eh bien précisément, il réserve en quelque sorte cette liberté de l'homme. Il permet à l'homme de réagir selon ses dispositions profondes, selon son être profond, et par conséquent, en toute liberté, d'accueillir le message de Dieu, de le comprendre, ou au contraire, de s'y fermer. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les paroles du Seigneur. Donc, ne pas du tout y voir une sorte de prédestination, de prédétermination qui empêcherait positivement certains de comprendre la parole de Dieu. Et on peut ainsi parfaitement concilier le double rôle des paraboles, d'une part d'être une manière simple, accessible au cœur simple mais droit, de comprendre le message du Christ, et puis d'autre part, une manière de s'exprimer qui rend ce message impénétrable à ceux dont le cœur est mal disposé. Donc voici une première raison, si je puis dire, de l'usage des paraboles par le Christ. Et l'une des raisons certainement les plus profondes, n'est-ce pas, ce souci de s'adresser à la liberté de chacun, de lui laisser tout son champ, tout son jeu, de manière que la réponse de l'homme soit véritablement une réponse essentiellement personnelle. D'autre part, cet usage des paraboles dépend de la nature même du message que le Christ nous apporte. Ce message, c'est l'accomplissement non seulement des prophéties, mais de toute l'histoire d'Israël, de tout l'Ancien Testament. Rappelez-vous l'épisode des disciples d'Emmaüs, que nous lisions hier soir dans l'Évangile des Matines, où nous voyons le Seigneur expliquer à partir des prophètes, des psaumes, de tout l'Ancien Testament, qu'il fallait qu'il souffre pour entrer dans sa gloire aux disciples. Et comment les disciples, après cet entretien, se disaient entre eux, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'en chemin, il nous expliquait les Écritures. Eh bien, justement, les paraboles du Christ reprennent toutes les grandes images de l'Ancien Testament, toutes les grandes images messianiques des prophètes, pour les appliquer, précisément, à l'avènement du royaume, pour les appliquer au Christ lui-même. Car finalement, en filigrane, c'est toujours lui-même et son œuvre que le Christ désigne par ses images. Image du pasteur, par exemple, si souvent évoquée par les prophètes, que nous retrouvons notamment dans la parabole de la brebis perdue, qui exprime tellement bien toute l'œuvre du Christ, ou le mystère du salut. Image de la vigne et du vigneron, la vigne d'Israël, reprise par diverses paraboles. L'image des semailles que l'on retrouve aussi chez les prophètes. Plus encore, l'image des noces royales, du festin messianique, du roi victorieux, de son attitude à l'égard des adversaires. Ce sont autant de thèmes que nous trouvons à travers tout l'Ancien Testament, notamment chez les prophètes, et à travers lesquels le Christ ainsi annonce, explique sa mission, explique son œuvre. Et par là même, le Christ inaugure lui-même ce qui sera ce que j'appellerais la méthode théologique de l'Église. Parce que, en effet, les pères de l'Église et toute la grande tradition de l'Église, si l'on met à part la scolastique occidentale du Moyen-Âge qui a utilisé des méthodes différentes et beaucoup plus rationnelles, ne cherche pas à donner l'intelligence du dessein de Dieu en définissant les réalités spirituelles, surnaturelles, en essayant de les classer par genre et différence, et les faire entrer dans des définitions philosophiques. Elle n'essaie pas non plus de nous montrer une connexion logique nécessaire entre les différents aspects du mystère, comme entre des propositions d'un raisonnement liées par des connexions nécessaires et sortant l'une de l'autre à la manière d'une conclusion dont les prémices donnent l'explication. Les pères essaieront de nous donner l'intelligence de la nouvelle alliance, de l'œuvre du Christ, au moyen d'un va-et-vient incessant entre les deux testaments, en éclairant sans cesse l'un par l'autre. Et c'est bien ce que fait le Seigneur. Il explique son œuvre par une référence à toute l'attente d'Israël, à tous les thèmes, à toutes les images à travers lesquelles cette préparation messianique s'était effectuée, et d'autre part, par là même, il nous éclaire aussi tout ce qui a précédé. Donc les paraboles ont une véritable portée théologique, mais pas d'une théologie, bien sûr, rationnelle et cérébrale. Donc je crois que l'on peut dire, n'est-ce pas, qu'il y a ces deux raisons fondamentales à l'emploi du genre parabolique par le Christ. D'une part, ce souci de s'adresser au cœur de l'homme, et non pas simplement à son intelligence, à sa raison. L'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs, mais il y a là quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spirituel. Et puis, d'autre part, ce souci également de répondre à toute la préparation de l'histoire sainte, à montrer par la manière même dont il s'exprime, par les thèmes qu'il utilise, par les images qu'il emploie, que son œuvre accomplit tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été annoncé jusque-là à travers les prophètes et à travers l'histoire d'Israël, que les prophètes n'ont d'ailleurs fait que commenter, dont ils ont essayé de révéler le sens. Donc voici quelques réflexions sur la raison d'être, le sens des paraboles dans l'enseignement du Christ. Maintenant, j'ajouterai quelques mots sur l'interprétation des paraboles dans l'Église et le sens qu'elles ont eu dans telles qu'elles ont été transmises par l'Église. La transmission, la tradition des paraboles dans l'Église, si vous voulez. Pour l'Église, la Bible n'est jamais un document du passé qui nous renseignerait sur un certain état des connaissances religieuses de l'homme, que ce soit à une époque quelconque de l'Ancienne Alliance, que ce soit à l'époque du Christ, à l'époque du Nouveau Testament. Pour l'Église, toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est une parole de Dieu actuelle, vivante, adressée à chaque homme, à chaque époque, et l'interpellant personnellement. Et c'est pourquoi l'Église, dans sa transmission ainsi de l'Écriture, l'actualise, l'interprète, en fonction des besoins de chaque époque, dans une grande fidélité au message, mais en même temps, sans scrupule excessif, je dirais, d'historicité. L'Église, et ceux qui en sont les organes, notamment les pères auxquels nous référons toujours de façon privilégiée, cherchent davantage, dans cette transmission de la parole de Dieu, à tenir compte du sens global de son message et veut que cette interprétation qu'elle nous soumet soit conforme au sens général de la révélation, à la doctrine fondamentale transmise par les apôtres, plutôt qu'elle ne s'attache à respecter la signification originelle des textes telle que peut aujourd'hui la restituer une exégèse historique et critique. Ce souci historique et critique est une chose très, très moderne, n'est-ce pas, qui a son utilité, que nous pouvons nous aujourd'hui utiliser, mais c'est un fait que l'Écriture a vécu dans l'Église pendant des siècles, en dehors de ses méthodes, et cette vie de l'Écriture dans l'Église est un fait et quelque chose qui existe, qui pour nous garde une certaine valeur normative et à laquelle nous pouvons toujours nous référer, quitte à tenir compte aussi de l'exégèse contemporaine, soit pour la suivre dans ses acquisitions qui sont compatibles avec le message fondamental de l'Église, avec la pleine orthodoxie de ce message, soit au moins pour tenir compte des questions qu'elle pose et que nous ne pouvons pas ignorer. Et peut-être les réponses que nous avons à fournir sont-elles différentes de celles qu'une simple exégèse historique critique pourrait donner. Parce que nous, justement, nous avons foi dans cette présence de l'Esprit dans l'Église, cette transmission de la parole de Dieu dans l'Église n'est pas une chose purement humaine, une chose purement relative, où il y aurait simplement à tenir compte de l'élément culturel lié à telle époque et à tel état de la civilisation, mais tout ceci est comme transfiguré par la présence de l'Esprit dans l'Église. Par conséquent, à ce titre, garde une valeur permanente. Les pères de l'Église ne sont pas simplement une étape dépassée de l'histoire de l'Église, c'est vraiment l'une des façons dont l'Esprit Saint a guidé l'Église dans l'intelligence du message du Christ, dans l'intelligence du mystère de Dieu. Cette façon de comprendre l'Écriture avec une certaine liberté, mais sous la conduite de l'Esprit, et dans ce souci de transmettre toute l'intégrité du message du Christ, nous le trouvons déjà dans l'Église primitive et au niveau même de l'Église apostolique. Et là, c'est une des choses assez intéressantes qu'ont souligné les exégètes modernes. Dans les évangiles synoptiques eux-mêmes, on trouve des recensions un peu différentes des paraboles. Et de l'une à l'autre, par exemple, de saint Marc à saint Matthieu et à saint Luc, lorsqu'il nous rapporte la même parabole, nous trouvons certains glissements de sens. Je ne peux pas m'y étendre maintenant, parce que nous reviendrons là-dessus dans des conférences suivantes en étudiant chacune des paraboles à son tour, mais je vous le signale dès maintenant, la pointe des paraboles, leur sens exact, n'est pas toujours strictement le même dans chacun des évangélistes. Et ceci, nous pouvons très bien l'admettre, parce que précisément, les évangiles partent de l'enseignement du Christ, mais les apôtres, ceux qui dans l'Église primitive ont transmis le message du Christ, l'ont fait à la fois en pleine fidélité à la pensée et à l'essentiel du message, mais en même temps en l'adaptant à leur auditoire, en tenant compte de circonstances concrètes. C'est un message vivant, et ils ont fait cela sous la conduite de l'Esprit. Car surtout, lorsqu'il s'agit d'auteurs du Nouveau Testament, nous pouvons être certains de cet assistant de l'Esprit qui fait que tout ce qu'ils nous disent est parole authentique de Dieu. Et quand des exégètes contemporains en particulier s'appliquent même quelquefois à remonter au-delà du texte actuel des évangiles pour essayer de reconstituer ce que pouvait être la parole même du Seigneur, eh bien, il ne faudrait pas en conclure que le texte des évangiles en est en quelque sorte dévalorisé et que ce qu'il croit être la pensée, enfin, la parole même du Christ aurait plus d'importance pour nous, car finalement, ce qui nous est donné, ce qui nous est transmis dans l'Église, c'est bien ce texte même des évangiles. Le reste peut avoir un certain intérêt, mais ce ne sont jamais que des suppositions d'historiens, d'exégètes, et sans autre garantie que leurs compétences personnelles. Alors que le sens qui nous est livré par le texte même du Nouveau Testament, dans l'état où nous le possédons, est vraiment la parole de Dieu. Seulement, je dirais que nous pouvons dire un peu la même chose pour l'interprétation patristique des paraboles, comme d'ailleurs de l'ensemble de l'Écriture. Nous sommes un peu habitués maintenant, formés que nous sommes, consciemment ou non, par une mentalité beaucoup plus historique, sinon historiciste, à juger périmés parfois ces interprétations des pères. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il est extrêmement important d'être conscient du fait que ces interprétations patristiques de l'Écriture, des paraboles, sont avant tout un fait, sont un état de la vie du texte sacré du Nouveau Testament comme de l'Ancien dans l'Église. Et que par conséquent, nous n'avons, je ne dirais même pas, à les discuter. La question n'est pas de savoir si c'est le sens exact de la parabole du texte sur le sens qu'il pouvait avoir sur lèvres du Christ, parce que nous savons justement que, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a eu des glissements de sens, et ceci dès l'époque néo-testamentaire, donc ceci n'est pas grave, ceci fait partie du mode de transmission de la parole de Dieu dans l'Église. L'important est de savoir que ce sont des pères autorisés, des pères dans lesquels l'Église a reconnu véritablement des témoins fidèles de la tradition, des témoins fidèles de la foi apostolique qui nous les livrent. Et à ce moment-là, ces interprétations, ces exégèses qui peuvent être discutables du point de vue critique, ne le sont pas du point de vue de la foi, ne le sont pas du point de vue de la nourriture spirituelle qu'ils peuvent nous apporter. Je prends un exemple qui est l'un des plus caractéristiques. L'interprétation pratiquement commune chez les pères, dans la tradition de toute l'Église ancienne, l'interprétation de la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain est l'une des paraboles qui, dans l'Évangile, si on se réfère simplement au texte, semble avoir le moins de portée proprement dogmatique. C'est une parabole qui nous enseigne qui est notre prochain, n'est-ce pas, quel est envers qui nous devons pratiquer ce commandement d'aimer notre prochain. Donc une parabole assez morale, assez moralisante en un sens. Or, assez curieusement, les pères ont, d'une façon quasi unanime, interprété cette parabole en l'appliquant à l'œuvre du Christ. Le blessé, abandonné à demi-mort sur la route de Jéricho, c'est le genre humain blessé par la faute, blessé par le péché. Les voleurs, ce sont les démons, c'est l'adversaire, n'est-ce pas, qui l'a blessé, qui l'a laissé dans cet état tragique sur le bord du chemin. Le prêtre, le lévite, ce sont généralement pour les pères l'Ancien Testament qui passe à côté de l'homme, la loi de Moïse, et qui ne parvient pas à lui porter, qui ne peut pas lui porter efficacement secours. Et le bon samaritain apparaît alors comme l'image du Christ qui se penche vers ce blessé, qui le panse avec l'huile et le vin des sacrements, qui le conduit, qui le fait monter sur sa monture, et les pères n'hésitent pas parfois à dire que cette monture est l'image même de l'humanité du Christ, le conduit dans l'auberge qui est l'image de l'Église, le confie à l'hôtelier qui représente les pasteurs de l'Église, n'est-ce pas, et lui demandant de le guérir en le gardant ainsi jusqu'à son retour avec tout ce que ça suggère, évidemment, d'ouverture eschatologique. Une interprétation admirable qui n'est pas du tout suggérée comme telle par le texte. Et la plupart des exégètes qui restent au ras de ce texte, qui se contentent d'une interprétation purement historique, peuvent évidemment la récuser. Elle n'en est pas moins extrêmement intéressante et extrêmement féconde. Et ce n'est pas pour rien que nous en retrouvons la trace assez souvent, même dans nos textes liturgiques. Elle fait vraiment, sous cette forme, ainsi interprétée, partie du patrimoine de l'Église. C'est un peu, si vous voulez, comme dans l'Ancien Testament, la vision des trois anges apparus à Abraham, historiquement, est une simple manifestation de Dieu, de l'ange de Yahvé, comme disent les exégètes à la suite des textes de l'Ancien Testament, à Abraham. Et on n'y discerne pas directement une manifestation trinitaire. Or, toute la tradition de l'Église, toute la tradition des Pères, y a vu une manifestation de la Sainte Trinité, à tel point que cette philoxénie d'Abraham, cet accueil des trois anges par Abraham, est devenu l'icône par excellence de la Sainte Trinité. Eh bien, il n'y a pas là une méprise, il n'y a pas là une erreur, ce n'est pas quelque chose dont nous devions nous débarrasser actuellement parce que, historiquement, parce qu'aux yeux d'une exégèse rigoureusement critique, cela n'est pas justifié. C'est la manière dont l'Esprit-Saint guidait l'Église dans l'interprétation de ce texte qui a conduit à cette conception, qui a conduit à y voir ainsi l'une des images hétérotestamentaires privilégiées de la Sainte Trinité. Bien, je dirais de même quand, d'une façon très générale, chez les pères, dans les textes liturgiques, nous trouvons ainsi une interprétation des paraboles, comme d'autres textes scripturaires, qui débordent leur sens immédiat, le sens obvie, encore une fois, que peut nous révéler une analyse proprement critique du texte. Ce n'est pas quelque chose dont nous aurions aujourd'hui à nous détacher. Nous ne sommes pas appelés aujourd'hui à créer, je crois, de nouvelles exégèses de ce type, parce que notre mentalité est différente, mais c'est de cette manière tout de même que l'Église a été conduite par l'Esprit-Saint, et je pense que cette foi dans une tradition de l'Église, qui lorsqu'elle a une certaine unanimité, et qu'elle est parfaitement conforme au message évangélique, au message apostolique, c'est quelque chose que nous pouvons pleinement recevoir, pleinement accueillir. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui parce que nous avons encore, je crois, un autre entretien ensuite et peut-être aurez-vous quelques questions et précisions à me demander. Mais c'est dans cet esprit alors que nous commenterons les paraboles, les diverses paraboles au cours des mois qui viennent. Nous chercherons à la fois de nous mettre à l'écoute de l'exégèse actuelle pour voir les problèmes qu'elle pose, mais en même temps, nous serons aussi attentifs que possible à la manière dont l'Église au cours des siècles a compris, et notamment à la manière dont les pères, les meilleurs et les plus sûrs parmi eux, ceux qui représentent le mieux la tradition de l'Église, les ont compris, notamment à Saint Jean Chrysostome, à Saint Basile de l'occasion, d'autres. Bien, peut-être avez-vous des présentations.
Vous avez assemblé
utiliser tous ces thèmes de l'Église. Seulement, aujourd'hui, notre mentalité est différente. Il faut faire attention. Nous n'avons pas la garantie d'une inspiration personnelle du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas tel ou tel exégète actuel, même orthodoxe. Ce n'est pas pour autant un père de l'Église. Et par conséquent, il y a un certain danger de subjectivité à vouloir créer de nouvelles interprétations de ce type. Je pense par exemple à la manière, ce n'est pas un auteur orthodoxe, mais enfin à Paul Claudel par exemple, qui un peu trop systématiquement a voulu réhabiliter l'exégèse dite spirituelle et qui est arrivé parfois à des choses un peu forcées, voyez-vous. Donc c'est en ce sens, simplement.
Mais est-ce que l'Église ne peut pas toujours, de la même manière qu'avant, vérifier justement, et donc oui. Faire l'épuration?
Oui, seulement, je veux simplement appeler une certaine prudence, voyez-vous, dans l'usage d'une exégèse dite spirituelle, qui risquerait alors d'être quelquefois un peu trop détachée d'une vérification objective.
C'est ça le changement de mentalité.
Oui. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que nous, spontanément, si vous voulez, nous n'avons plus le même mode de pensée que les pères, donc nous risquerions d'être un peu artificiels créer de nouvelles interprétations spirituelles qui ne soient pas dans le prolongement de celle de la tradition ancienne de l'Église. Non. Non, pas du tout. Si vraiment ça se fait dans l'esprit des pères, mais ce qui m'inquiéterait un peu, c'est que quoi, un certain ésotérisme chrétien, voyez-vous, qui tirerait un peu n'importe quoi des textes sous prétexte d'une liberté dans l'interprétation.
Oui, à propos de l'exégèse, je vais vous aider à voir et découvrir pourquoi une parabole et un symbole.
Oui, c'est une question de vocabulaire, n'est-ce pas ? Évidemment, sous le nom de symbole, on peut mettre beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Une parabole, c'est essentiellement un récit fictif, en ce sens qu'elle ne nous raconte pas nécessairement un fait arrivé, c'est un fait qui peut être créé par le conteur, n'est-ce pas ? Mais qui exprime, sous une forme imagée, une réalité. Il y a donc une correspondance, si vous voulez, entre l'image et une réalité autre que l'image, mais qui nous suggérait à travers une image ou un ensemble d'images. Maintenant, la parabole diffère de ce qu'on appelle l'allégorie par le fait que dans une parabole, la correspondance est globale, si je puis dire. Il n'y a pas nécessairement une correspondance entre chaque détail de la parabole et puis chaque détail, chaque aspect de la réalité. Il n'y a pas, par exemple, prenez la parabole du bon pasteur, il n'est pas du tout nécessaire de chercher à quoi peuvent correspondre les portes, à quoi peuvent correspondre les fenêtres, etc. N'est-ce pas ? C'est l'ensemble de la parabole qui est signifiante. Chaque détail ne correspond pas nécessairement à une réalité distincte dans ce à quoi correspond la parabole. Donc c'est la différence entre parabole et allégorie qu'il faut déjà distinguer. Il y a des paraboles qui sont allégoriques, qu'on peut interpréter de manière allégorique, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Et quelquefois même, ça peut être artificiel. D'autre part, le symbole, alors, est susceptible, le mot symbole est susceptible d'interprétation un peu différente. On peut prendre symbole simplement comme un symbole peut être uniquement une réalité visible, sensible, perceptible au sens, qui nous renvoie à une réalité invisible, mais distincte d'elle. Par exemple, pas d'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, n'est-ce pas, mais
l'étoile de David, par
exemple. L'étoile de David, oui, peut un symbole du Messie, n'est-ce pas, Mais dans ce cas-là, il n'y a pas, si vous voulez, de présence de la chose signifiée dans le signe, dans le symbole. Par contre, si vous prenez symbole au sens fort, qui a été celui, par exemple, qui a utilisé Saint Maxime le Confesseur, et qui est le sens véritablement théologique de symbole, le symbole est une réalité visible, sensible, à travers laquelle se manifeste et se communique une réalité en elle-même invisible. Par exemple, l'humanité du Christ, le Verbe incarné, est le symbole par excellence. Et Saint Jean Damascène nous dira, par exemple, que dans l'incarnation, le Christ s'est fait son propre symbole. C'est-à-dire que l'humanité du Christ, c'est vraiment le Verbe de Dieu, c'est vraiment Dieu se mettant à notre portée, se rendant accessible à nous, parce que prenant une chair, n'est-ce pas, et se proportionnant à nous, mais en même temps, rendant présent la réalité. Il n'y a pas cette espèce de distance entre les deux, n'est-ce pas? L'humanité du Christ ne nous renvoie pas à une réalité spirituelle extérieure à elle. Cette réalité spirituelle est en elle, se manifeste en elle. C'est dans ce sens qu'on pourra dire aussi que l'Eucharistie est un symbole du corps du Christ et un symbole du Christ, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout un symbole qui nous renvoie à autre chose, mais elle l'est réellement, mais elle l'est sous un mode qui nous est approprié. C'est ce que les pères appellent, n'est-ce pas, il n'y a pas de mot français pour bien traduire, mais on peut dire condescendance, n'est-ce pas, catavasia, sin catavasia, n'est-ce pas, cette idée de condescendance, de Dieu se mettant à notre portée, mais se communiquant réellement. Et ça, c'est extrêmement important, parce que je crois que c'est une des grandes clés de la théologie orthodoxe. Oui. Oui, ça rejoint beaucoup. On me dit que cette seconde définition du symbole rejoint celle du sacrement, et c'est exact. Parce que le mot latin sacrement, justement, n'est pas très satisfaisant. C'est un terme plutôt un peu juridique. Tandis qu'en grec, on parlera de mystère, n'est-ce pas? Et le mot grec de mystère appliqué au culte chrétien, appliqué à la théologie chrétienne, a ce sens précisément. Le mot mystère évoque bien cette idée d'une réalité cachée qui se manifeste à nous à travers une réalité plus accessible qui à la fois la communique, la dévoile, tout en la gardant cachée en même temps. Oui, il y a une très grande parenté entre les deux termes. Alors oui, nous sommes là sur un terrain un peu différent de la parabole, puisque la parabole est plutôt un mode d'expression simplement. Tandis que le symbole, au sens fort, alors, sera avec toi un mode de communication de la réalité invisible. L'icône est un symbole au sens fort. Oui.
Je voudrais une question de vocabulaire. J'aimerais vous entendre définir la parabole avec le mot métaphore.
Oui.
Qui est connoté dans les sciences humaines, qu'on emploie beaucoup.
Oui. Mais là encore, n'est-ce pas, c'est un petit peu... Ce sont des termes qui ont des acceptions différentes selon les systèmes de pensée où on les trouve employés. Le mot métaphore, au moins personnellement, je l'emploierais plutôt pour désigner une réalité qui nous renvoie à une autre réalité qu'elle nous fait connaître, mais qu'elle ne nous fait pas connaître en termes propres. Par exemple, si je dis d'un homme de caractère difficile qu'il est un ours, voyez-vous, ce sera une métaphore, n'est-ce pas? Parce que ça le désigne bien, ça permet de le connaître, mais pas en termes propres, n'est-ce pas? C'est évidemment, il y a une transposition et aucune des caractéristiques fondamentales, essentielles de l'ours ne se vérifie en lui, évidemment, n'est-ce pas? Et vous ne pourrez pas, de ce que je dis qu'il est un ours, conclure qu'il a de longues griffes ou un poil épais, n'est-ce pas? Donc c'est ça la métaphore, pour moi ce sera ça la métaphore plutôt, voyez-vous? Connaissance métaphorique, n'est-ce pas, c'est une connaissance à partir d'une comparaison qui est impropre, mais qui est en même temps suggestive.
Alors, puisqu'on est dans les questions de vocabulaire, on emploie aussi le mot parabole en mathématiques pour désigner une certaine courbe dont tous les points sont à égale distance d'un point et d'une droite. Et certains, j'ai entendu certains faire un rapprochement et essayer de démontrer qu'entre cette courbe, la parabole, et puis les paraboles dont vous venez de nous parler, il y avait une relation qui, ce qui représente, ceci ne m'a pas beaucoup convaincu. Qu'en pensez-vous?
Il y a certainement une relation étymologique lointaine, n'est-ce pas? Mais enfin, je ne vois pas personnellement quelle relation prochaine on pourrait établir.
Et alors, dans le sens évangélique, quelle est l'étymologie, le sens étymologique de parabole? Para, ça veut dire
tout, et bol, ça veut dire... Oui, Valo, envoyer, contre. J'avoue que je n'ai pas, je ne l'ai pas approfondi. C'est certainement le. Oui. Pas l'eau, mais.
On m'a dit une fois que le para-voyer veut dire sortir
plus loin. Oui, c'est, étymologiquement, c'est cela. Mais enfin, c'est l'idée de comparer, n'est-ce pas? De passer d'une chose à une autre. Oui. Oui, on pourrait dire que littéralement, c'est jeter plus loin, n'est-ce pas, le
paravalier. Déplacer.
Plus loin que le sens.
Oui, oui. Oui, c'est certainement l'origine. Certainement l'origine, mais il y a une évolution sémantique qui fait que le mot a pris le sens précis de comparaison.
Le mot hébreu est beaucoup plus instructif, là. Machav, ça.
Oui.
Qui vient de la racine gouverner et dominer. C'est-à-dire le lien qui existe entre le monde visible et invisible, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, en fin de compte.
Oui.
Mais là, j'aimerais ajouter quelque chose, mon père, parce que j'ai quelques difficultés avec le mot « expliquer » une parabole. Parce que le milieu pédagogique en Israël n'emploiera jamais le mot « expliquer ». Même Jésus, enfin l'évangéliste, ne l'emploiera pas. Il dira « déchiffrer ». Et le juif dira « midrashiser », n'est-ce pas, « darashkruter ». Autrement dit... Et il n'y a pas un sens exact à la parabole, il y a beaucoup de sens, le sens est infini, et quelqu'un qui dira, mais voilà le sens de ce qui est en bas, en fin de compte.
Oui.
Mais là, j'aimerais ajouter quelque chose, mon père, parce que j'ai quelques difficultés avec le mot « expliquer » une parabole. Parce que le milieu pédagogique en Israël n'emploiera jamais le mot « expliquer », même Jésus, enfin l'évangéliste, ne l'emploiera pas. Il dira déchiffrer. Et le juif dira midrashiser, n'est-ce pas, darashkruter. Autrement dit, il n'y a pas un sens exact à la parabole. Il y a beaucoup de sens. Le sens est infini. Et quelqu'un qui dira, mais voilà le sens de la parabole, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui se trompe. On ne peut pas dire, voilà le sens. N'est-ce pas? On peut seulement en sortir un sens aujourd'hui. Parce que l'idée profonde dans le milieu juif, c'est que la parole de Dieu est une lumière. Et que la lumière ne demande pas à éclairer, mais par contre nous éclaire nous.
Oui.
Autrement dit, personne ne pourra dire, voilà le sens de la lumière.
Non, tout à fait, c'est pour cela qu'il y a cette fluidité dans le sens, mais une fluidité qui n'est pas infinie, en ce sens qu'elle est contenue dans une tradition et dans des limites.
Mais, oui. Si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire...
Évidemment, à de très longs exposés. Ça a été très bien fait, d'ailleurs, par Kuhlmann, l'exégète Kuhlmann. Qui a bien montré l'arrière-plan sacramentaire de l'évangile de Saint Jean. Oui.
Et est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelle le théologien, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport?
Enfin, oui, mais enfin, Saint Jean est le théologien avant tout, n'est-ce pas? Parce que justement, il est parvenu, surtout dans son prologue, n'est-ce pas, cette vision du mystère trinitaire, du Verbe qui est en Dieu avant les origines. Enfin, oui.
Ça n'a pas de rapport avec le mode d'expression.
Pas directement avec le mode d'expression, sinon que ce mode d'expression est hymnique aussi, n'est-ce pas, est une manière de théologie. Oui.
Le parabole révèle, mais le parabole aussi peut cacher.
Oui.
Est-ce que vous pouviez peut-être parler un peu plus de afin qu'ils entendent et afin qu'ils n'entendent pas?
Oui.
Ces ambiguïtés-là.
Oui. La parabole cache, je crois, en ce sens que elle ne veut pas donner une explication qui contraindrait l'esprit à l'adhésion. La parabole communique le message, mais le communique, comme je disais, au cœur, voyez-vous, et suppose une part d'intuition, une part de saisie, je dirais, à la fois affective et intuitive, qui met en jeu la liberté. Alors que si la parabole était expliquée, enfin si au lieu d'avoir des paraboles, on avait une explication, une sorte de raisonnement, et bien à ce moment-là, il s'adresserait simplement à l'esprit, et au fond, le contraindrait à l'adhésion. Ou bien les preuves données sont contraignantes et l'esprit adhère, ou bien ne le sont pas, et donc il n'y a pas d'adhésion. Tandis que là, le type même, le mode même d'expression de la parabole laisse beaucoup plus de jeu la liberté. Et je pense dans ce sens-là qu'elle voile, voyez-vous, elle voile, dans le sens qu'elle n'explique pas clairement, mais justement pour que la clarté vienne de ce jeu de la liberté. Et la parabole suppose à la fois, voyez-vous, la révélation extérieure et puis l'illumination intérieure de l'esprit, mais l'illumination à laquelle on consent.
Et les phrases « afin qu'ils entendent et afin qu'ils n'entendent pas »
Oui. Mais alors là, c'est une expression hébraïque, n'est-ce pas, comme je vous le disais, parce que l'hébreu n'a pas de n'exprime pas l'idée de permission divine, n'est-ce pas? Et ce qui est permis par Dieu, mais vient de la liberté humaine, est exprimé sous la forme d'une sorte de décret, n'est-ce pas, de volonté positive. Mais le contexte général de la Bible montre très bien que la liberté humaine est sauvegardée, qu'il n'y a pas de la part de Dieu d'action d'endurcissement qui ne soit pas, je dirais, comme conditionnée par un refus de l'homme. Et alors c'est là que la tradition de l'Église, justement utilisant des modes d'expression plutôt inspirés de l'hellénisme, a pu plus clairement exprimer la chose. C'est ces distinctions entre ce qui est l'action positive, l'action proprement dite de Dieu, et puis ce qui est simplement permission divine, mais une permission divine, c'est l'homme finalement qui est uniquement responsable.
Est-ce qu'il n'y a pas un clé dans ce par quoi vous avez commencé, c'est-à-dire dans l'anthropologie, en constatant que l'homme est un être en état de rupture, et que constamment, dans cet état, il veut saisir les choses? Et qu'au fond, le Christ parle de telle façon qu'il ne peut comprendre que globalement que s'il s'est converti.
Très exactement.
S'il essaie par effraction intellectuelle d'entrer dans le mystère, oui, il pourra.
C'est tout à fait cela. Tout à fait. Tout à fait, je crois que vous expliquez très bien ce que j'essayais de dire.
Mais quelque chose qui me gêne un peu, c'est que il peut y avoir le danger de ne plus savoir où est la véritable parole. Parce que souvent, par exemple, on prend une parole et puis on dit oui, mais en fait, le Christ a voulu dire ça, il a voulu dire ça. Et des fois, on en arrive au sens pas contraire, mais on s'éloigne vraiment de la parole elle-même.
Oui.
Qui fait que des fois, je me dis mais en fait, qu'est-ce qu'a voulu dire le Christ réellement, concrètement,
parce que... Oui. Alors, on a une garantie globale, comme je vous le disais, par l'enseignement général de l'Église. Si, par exemple, vous avez une interprétation qui va directement contre l'enseignement de l'Église, si, par exemple, vous proposez une interprétation de tel texte biblique, je ne sais pas, en faveur, par exemple, de la réincarnation, de la pluralité d'existences successives, n'est-ce pas, sur la thèse des religions orientales. Bon, vous savez là qu'il y a une chose qui est en dehors de toute la tradition de l'Église. Par conséquent, vous pouvez être sûr que votre interprétation est fausse. N'est-ce pas? N'est pas une interprétation juste. Par contre, vous pouvez avoir une interprétation qui ne soit pas le sens peut-être le plus précis de la parabole, mais qui soit suggérée par lui et qui soit conforme à l'ensemble de l'enseignement de l'Église. Donc là, c'est sans danger et vous vous servez simplement d'une parole de l'Écriture pour exprimer ce qui a été au moins dit par d'autres paroles. Voyez-vous ? Donc ceci n'est pas dangereux. Mais le meilleur critère, c'est qu'une interprétation soit ou bien vraiment conforme à une interprétation courante et classique dans l'Église, par exemple, telle qu'elle est transmise par la liturgie, par les pères les plus autorisés, à Saint Jean Chrysostome, etc., n'est-ce pas ? Ou bien alors, aussi, certaines interprétations de l'exégèse contemporaine, qui sont des choses vraiment solides, objectives, et auxquelles on peut se fier. Mais le critère sera toujours de la conformité avec l'ensemble de la tradition de l'Église. C'est toujours à l'intérieur de cette tradition, de cette transmission du message apostolique, que nous pourrons avoir un certain jeu pour l'interprétation des paroles d'Écriture, qui, comme le disait très bien Bernard, n'ont pas un sens absolument défini et limité, n'est-ce pas ? Ont une certaine ampleur de jeu qui est d'ailleurs extrêmement enrichissante spirituellement.
Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... Est-ce que nous ne croyons pas que l'Église peut découvrir, peut un peu approfondir, découvrir des sens nouveaux, ce qui apparaît à nous comme quelque chose de nouveau, qui était là depuis le commencement,
oui.
En fait, qui est pour nous découverte d'un sens nouveau?
Très certainement, seulement qu'il n'ajoutera rien de substantiellement différent, si vous voulez, de ce qui était possédé. Mais il y a un renouvellement, c'est certain, un père du 3e siècle, n'est-ce pas, et un père du 5e, il y a certainement un certain renouvellement, parce que des problèmes nouveaux sont nés, n'est-ce pas, et des réponses nouvelles ont jailli, mais qui sont parfaitement conformes à ce qui était dit avant. Il n'y a aucun apport substantiel nouveau. Mais je dirais tout de même, le progrès, voyez-vous, dans l'Église, apparaîtra moins sous l'aspect d'une nouveauté objective que par une espèce de renouvellement intérieur, de redécouverte intérieure par chacun.
C'est comme ça que l'enseignement de l'Église n'est pas répétitif. Évidemment, si on reprend toujours les mêmes formules, c'est répétitif et c'est stérile. Seulement, les mêmes formules peuvent recouvrir une intelligence personnelle toujours renouvelée en chacun, n'est-ce pas ? Et véritablement personnelle, à ce moment-là, ce n'est plus du tout une répétition stérile, même si la formulation reste identique.
Il peut y avoir des mots nouveaux.
Parce aussi, qu'en fait, justement, inévitablement.
Parce qu'en fait, les pères ont osé créer.
Ah oui, 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 absolument. Mais de toute manière, il y en a toujours eu, n'est-ce pas ? Il y en aura toujours, je crois. Quelques fidèles que nous cherchions à être aux pères, nous n'avons même pas à chercher à être des hommes du XXe siècle, nous le sommes, n'est-ce pas ? Et inévitablement, je dirais, nous ne sommes même que trop, et le danger est toujours plutôt pour nous de l'être trop pincé d'une certaine manière, n'est-ce pas ? Mais c'est bon en soi, et il n'y a pas à le redouter, il faut simplement veiller à rester dans le sens profond de l'Église, de la tradition, mais c'est normal, c'est spontané, c'est la façon de la vie, qu'il y ait en même temps un certain renouvellement d'expression qui se fasse. Il est certain qu'une causerie comme celle que je viens de vous faire, n'est-ce pas, ne serait jamais sortie sous cette forme d'Hélène à Saint-Jean Chrysostome ou d'un père du XIe siècle, n'est-ce pas, c'est évident. Elle n'est possible que de la part d'un homme du XXe siècle.
Est-ce qu'il est difficile de faire une représentation iconographique du parabole ?
C'est toujours difficile, évidemment, parce que le langage permet, n'est-ce pas, un jeu d'images que la représentation fige. Mais il en existe tout de même. Il y a des thèmes iconographiques des paraboles.
Le bon berger, je crois qu'il est un très vieux thème.
Ah oui, alors le bon pasteur est un thème très très ancien. Oui.
Dans les catacombes.
Oui, oui. Oui, mais alors il y a ce fait, n'est-ce pas, justement pour le bon pasteur, enfin, l'image du bon pasteur a disparu pratiquement de l'iconographie chrétienne parce qu'elle est purement symbolique. L'image du bon pasteur n'était pas une image du Christ, mais un symbole du Christ. Le bon pasteur, au fond, c'est simplement une image antique, n'est-ce pas, d'Hermès Criopher, utilisée pour symboliser le Christ, le bon pasteur. Et alors, au fur et à mesure de l'approfondissement des dogmes christologiques dans l'Église, et notamment de la correspondance entre l'icône et le dogme de l'incarnation, on en est venu à écarter les représentations purement symboliques au profit de la représentation du visage même du Christ. N'est-ce pas ? Et de scène, on ne représente en icône normalement que des faits, n'est-ce pas ? Parce que la base même de l'iconographie chrétienne, c'est le fait de l'incarnation, ce sont les différents faits de l'histoire du salut. Et une icône, par elle-même, ne représentera jamais un symbole, n'est-ce pas ? Purement et simplement, une chose purement, alors je dirais purement symbolique, n'est-ce pas ? Donc il y a une sorte de contradiction à parler d'une icône, d'une parabole. Seulement, tout de même, dans le narthex des églises, surtout à une époque un petit peu tardive, 14e, 15e siècle, on a eu des peintures de style iconographique représentant les paraboles, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est déjà quelque chose qui n'est pas absolument dans le sens même de l'icône.
Père, est-ce qu'il y a
d'une icône de second ordre, d'une icône de représentative,
quand
on trouve quand même des paraboles.
Oui, oui, oui.
Dans les miniatures, par exemple.
Ah oui, absolument.
Oui.
Oui. Non, on n'est pas là au cœur de, je dirais, ça n'est pas un thème iconographique central, mais c'est tout à fait possible, parce que les choses ne sont pas simples, n'est-ce pas, et il y a une sorte de dégradé. Si il y a l'icône type, qui est l'icône, au fond, à Chiropide, c'est l'icône du visage du Christ, l'icône de la Sainte Face, comme on dit qu'il est l'icône par excellence, et puis à partir de là, vous avez une multitude de thèmes iconographiques, et c'est une sorte de frange de cette iconographie chrétienne qui peut être constituée par les représentations des paraboles, comme certaines représentations symboliques, l'anneau de Dieu, etc., qui ne sont plus canoniques comme icônes, mais qui existent tout de même dans l'iconographie du XIVe au XVIe siècle.
J'ai même entendu récemment contester un peu la qualité proprement iconographique de représentation de la Trinité.
Non, celle de, justement, la Trinité. La Trinité, les trois anges apparaissant à Abraham, est parfaitement iconographique parce que c'est un fait d'Ancien Testament. C'est une théophanie, n'est-ce pas ? De même, évoquer la Trinité à travers le baptême, tout ça est parfaitement légitime. Par contre, représenter la Trinité, n'est-ce pas, avec un grand vieillard ayant sur les genoux un crucifix et une colombe entre les deux, n'est-ce pas, est de la mauvaise iconographie parce que personne n'a jamais vu cela. Ça n'est pas une théophanie, ce n'est pas une manifestation qui se trouve quelque part dans l'écriture, n'est-ce pas, de la Trinité.
Ça, c'est une allégorie, justement.
Oui, oui, ça devient une allégorie. Et...
Il y a quelque chose qui est très important, justement, c'est que le type de dessin et de description qui est fait par l'icône a le même rapport avec le dessin naturaliste que la parabole avec l'explication.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que l'icône est en elle-même déjà une parabole, toujours.
Oui.
C'est la manière dont c'est dessiné, dont les choses sont exprimées, qui est parabolique. C'est pour ça que finalement, on n'a pas besoin de représenter les paraboles, puisque l'icône est toujours une parabole.
Exactement, exactement. Oui, oui.